Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Il y a des découvertes qui naissent d'une idée et d'autres qui naissent d'un regard. L'histoire de Clyde Tombaugh appartient à la seconde catégorie. Elle ne commence pas dans un grand centre scientifique, mais dans un paysage beaucoup plus ordinaire, une ferme du Midwest américain, un ciel nocturne et un jeune homme qui regarde les étoiles. Tombaugh n'est pas destiné à devenir astronome, il n'a ni formation universitaire prestigieuse, ni accès naturel aux institutions savantes, mais il a une passion et surtout une patience. Il observe, il dessine, il compare. Il trace à la main les détails de Mars et de Jupiter avec une précision qui surprend. Ses dessins ne sont pas ceux d'un rêveur, mais ceux d'un œil discipliné. Ces dessins, il les envoie à l'observatoire de Lowell, en Arizona. Peut-être espère-t-il un conseil, une reconnaissance, un encouragement. Il reçoit autre chose, une invitation. Car à Lowell, on cherche une planète. Depuis la fin du 19e siècle, Percival Lowell a laissé derrière lui une énigme, l'existence possible d'une planète X située au-delà de Neptune, censée expliquer certaines irrégularités observées dans les orbites des planètes connues. L'idée est incertaine, les calculs sont fragiles, mais la quête continue. Et pour chercher une planète invisible, il faut trouver quelqu'un capable de voir presque rien. Tombaugh arrive à l'observatoire. On lui confie une tâche très simple en apparence, mais vertigineuse dans son ampleur. Il faut examiner des plaques photographiques du ciel, prises à plusieurs jours d'intervalle, et repérer les points lumineux qui se déplacent. Les étoiles, elles, ne bougent pas, mais les planètes, si. Mais la différence est minuscule. À l'échelle des plaques, il s'agit d'un déplacement à peine perceptible, perdu dans une multitude de points fixes. Pour détecter ce mouvement, on utilise un instrument étrange, un comparateur clignotant. Deux images du même champ sont placées côte à côte. On les fait alterner rapidement. Si un point a bougé, il semble sauter d'un point à un autre. Mais encore faut-il le voir. Jour après jour, nuit après nuit, Tombaugh observe, il scrute, il compare, il attend, rien ne se passe, ou plutôt tout se ressemble, le ciel est stable, immobile, indifférent. Puis, un jour de février 1930, quelque chose change, un point parmi des milliers qui ne se comportent pas comme les autres, il se déplace légèrement, mais suffisamment pour être distingué. Un déplacement infime, mais réel. Tombaugh vérifie, recommence et confirme. Le point est là et il bouge. Ce n'est pas une étoile, c'est une planète. On l'appellera bientôt Pluton. La découverte est annoncée, célébrée, intégrée immédiatement au système solaire. Tombaugh, l'amateur, devenu observateur, entre dans l'histoire. Il a trouvé ce que d'autres cherchaient depuis des décennies. Mais ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas seulement la découverte, c'est la manière dont elle a eu lieu. Il n'y a pas ici de théorie révolutionnaire, pas de calcul audacieux, pas de rupture conceptuelle. Il y a un travail patient, presque monotone, une attention prolongée à des détails infimes. Tombaugh n'a pas deviné Pluton, il ne l'a pas imaginé, il l'a vu. Et voir, ce n'est pas ici un acte simple. Voir, c'est distinguer une variation de la répétition, c'est repérer une différence dans l'identique. C'est maintenir son attention suffisamment longtemps pour que l'infime devienne visible. Il y a dans cette forme de regard quelque chose de profondément scientifique. Car la science ne progresse pas seulement par des grandes idées, elle progresse aussi par la capacité à détecter ce qui s'échappe, ce qui ne se donne pas immédiatement. Tombaugh incarne cette patience. Il n'est pas le premier à chercher la planète X, il n'est pas celui qui a formulé l'hypothèse, il est celui qui a su au bon moment, avec les bons outils et surtout avec le bon regard, reconnaître un déplacement là où personne n'avait vu qu'un fond immobile. Il y a dans cette histoire une forme de modestie, car ce que Tombaugh découvre en 1930 n'est pas encore vraiment Pluton tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est un point. C'est déjà énorme, bien sûr, mais c'est encore une silhouette, plus qu'un monde. Pendant longtemps, Pluton va rester là, un nom, une orbite, un petit disque à peine discernable, une sorte de planète en pointillé. On la place à l'extrémité du système solaire comme une dernière borne, une limite, presque un symbole. Elle devient la 9e planète, et cette place semble lui aller de soi. Dans les livres scolaires, dans les planches murales, dans l'imaginaire collectif, le système solaire compte 9 planètes. L'ordre des mondes paraît fixé. Et pourtant, peu à peu, cette évidence va se fissurer. Car Pluton pose un problème, d'abord par sa petitesse. Très vite, on comprend qu'elle est beaucoup moins massive que ce qu'on avait imaginé. L'astre, qui devait peut-être rendre compte d'anomalies orbitales, n'a pas la puissance gravitationnelle attendue. Ensuite, par son orbite, plus inclinée, plus excentrique que celle des autres grandes planètes. Et enfin, et surtout, parce que la région qu'elle occupe cesse peu à peu d'apparaître comme un simple bord du système solaire. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et puis surtout dans les années 1990, l'astronomie découvre, au-delà de Neptune, tout un ensemble d'objets glacés d'une population nouvelle, la ceinture de Kuiper. Pluton n'est plus seule, elle n'est plus l'unique souveraine d'un désert, elle devient le premier membre connu d'une famille. Et cette transformation du contexte change la question elle-même. Tant que Pluton était isolé, son statut semblait aller de soi, mais dès lors qu'elle devient l'une parmi d'autres, il faut se demander ce que veut dire exactement le mot « planète ». En 2006, l'Union astronomique internationale propose une définition plus stricte de la planète. Pour être une planète, un corps céleste doit, en substance, tourner autour du Soleil, être suffisamment massif pour être à peu près sphérique et avoir nettoyé son voisinage orbital, c'est-à-dire dominer gravitationnellement sa région. Or, Pluton satisfait les deux premiers critères, mais pas le troisième. Elle partage son domaine avec de nombreux autres objets de la ceinture de Kuiper. Elle n'est donc plus classée parmi les planètes au sens strict, elle devient une planète naine. La décision suscite des réactions vives, parfois presque affectives. Beaucoup y voient une forme de déchéance, comme si Pluton avait été humilié, rétrogradé, expulsé d'un club prestigieux. Les protestations révèlent d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Nous croyons volontiers que les classifications scientifiques sont purement objectives, mais elles sont aussi chargées d'habitudes, d'attachements, d'imaginaire. On était habitué à 9 planètes. Ce nombre faisait partie d'un ordre appris dans l'enfance. Le déclassement de Pluton n'a pas seulement modifié une nomenclature, il a touché une représentation du monde. Si on y regarde de plus près, ce déclassement n'est pas une diminution, c'est plutôt une précision. On n'a pas retiré à Pluton sa réalité, on a changé la manière de la situer. On n'a pas dit qu'elle comptait moins, on a compris qu'elle appartenait à un ensemble plus vaste, plus complexe que on pouvait l'imaginer auparavant. Mais cette histoire ne s'arrête pas en 2006. Car c'est précisément au moment où Pluton perd son statut symbolique de 9e planète qu'elle gagne paradoxalement une réalité nouvelle. Longtemps, elle n'avait été qu'un point, puis une catégorie contestée. Il allait falloir qu'elle devienne enfin un monde. C'est là qu'intervient la sonde New Horizons. Lancée en 2006, la même année que le déclassement de Pluton, elle accomplit en quelque sorte le mouvement inverse de la décision astronomique. Tandis que la définition officielle semble reléguer Pluton à la périphérie, la sonde part à sa rencontre. Il faut presque 10 ans de voyage pour atteindre ce petit corps glacé, perdu au fond du système solaire. En juillet 2015, New Horizons survole Pluton. Ce que l'on découvre change tout. Car Pluton n'est pas qu'un caillou glacé, uniforme, inerte, à peine digne d'intérêt, c'est un monde. Un monde avec des reliefs, des contrastes, des structures, une histoire, un monde où l'on voit des plaines de glace, des montagnes d'eau gelée, des terrains jeunes, des fractures, des variations de couleurs, un monde dont la surface semble beaucoup plus active et diverse qu'on ne l'imaginait. L'image la plus célèbre est cette vaste région claire en forme de cœur, Tombaugh Regio, comme si Pluton, après des décennies d'éloignement, s'offrait à nous avec une signature presque ironique. Mais le plus important n'est pas dans l'anecdote visuelle, il est dans la transformation du regard. Avant New Horizons, Pluton était une abstraction. Un objet orbital, une masse, une catégorie problématique. Après, elle devient un paysage. La sonde transforme aussi notre vision du système plutonien lui-même. Car Pluton n'est pas seul. Elle forme avec Charon un couple d'une étonnante singularité. Charon n'est pas un simple satellite au sens ordinaire. Sa masse est suffisamment importante pour que le centre de gravité du système se situe hors de Pluton. Les deux corps tournent l'un autour de l'autre dans une relation presque binaire, comme deux partenaires, plus que comme un maître et son satellite. Autour de ce couple gravitent d'autres petits corps, Nix, Hydra, Kerberos, Styx. Un cortège discret, irrégulier, fragile, qui donne au système plutonien une complexité inattendue. Le cas de Pluton est particulièrement beau parce qu'il inverse les apparences. On pourrait croire que son déclassement la diminue, mais en réalité, c'est au moment même où elle cesse d'être une planète, au sens classique, qu'elle devient scientifiquement plus riche, plus intéressante, plus singulière. Elle perd un titre, mais gagne en profondeur. Pluton a donc connu 2 métamorphoses. La première, en 1930, est celle d'un point qui devient planète. La seconde, au tournant du 21e siècle, est celle d'une planète qui devient un monde. La première est une victoire du regard humain, de la patience de Tombaugh, de la capacité à reconnaître un mouvement minuscule. La seconde est une victoire de la technique et de la durée, de la persévérance d'une sonde partie des décennies après la découverte est venue transformer une abstraction en réalité sensible. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire de Pluton est émouvante. Pluton est le dieu des enfers. Autour de Pluton, tout parle des enfers. Charon est le passeur silencieux. Styx, le fleuve sombre qu'il faut franchir. Nix, la nuit originelle, Kerberos, le gardien aux portes, et Hydra, la bête tapie dans l'ombre. Ainsi se dessine, dans le froid lointain du système solaire, un paysage ancien, celui du royaume d'Hadès, où tout évoque le passage, la nuit et le monde des morts. Pour la musique, je dois avouer que j'ai un peu triché, j'ai choisi Neptune, The Mystic, de Gustav Holst. Bref, je me suis un peu trompé de planète, pardon.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.